Bonjour. Alors, moi, je vous le dis, je suis ravie. Ça fait des années que je veux qu'on fasse quelque chose avec Atrabile, un éditeur de bon goût qui fait de très belles choses, un éditeur téméraire. Et donc, je vous présente Daniel Pellegrino, des éditions Atrabile, et deux de ses auteurs, donc aujourd'hui, donc Benoît Pretesseil, pour son livre autour de Marcel Duchamp, et Frédéric Peters, pour plusieurs livres donc publiés chez Atrabile, dont on va parler plus tard. Donc on va commencer en parlant un petit peu de la maison qui fête ses 20 ans, 20 ans d'édition indépendante. Si Daniel, si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu l'histoire d'Atrabile.
Depuis le départ.
Allez.
Alors, ok. Je vais la faire courte, hein, mais je vais faire un petit peu de préhistoire. Alors. En fait, je ne sais pas si vous voulez préciser, mais on vient de Genève, en Suisse. Genève a une vieille histoire liée à l'image, à la bande dessinée, parce qu'on attribue l'invention de la bande dessinée à un fils de peintre genevois qui s'appelle Rodolphe Töpffer, donc ces histoires en estampes. Donc on lui attribue à lui l'invention de la bande dessinée. Donc il y a une vieille histoire autour de la bande dessinée de Genève. Et puis il y a aussi une grosse culture de l'affiche à Genève. Parce qu'à Genève et en Suisse en général, on est appelé avec notre système de démocratie semi-directe. On a l'impression que je m'éloigne, mais je vais parler d'Atrabile là. On vote beaucoup à Genève. Tout ça pour dire qu'on vote quasiment tous les 3 mois. On est appelé à voter sur plein de choses, la construction d'un pont, la légitimité de l'armée. On vote tout le temps, on vote tout le temps pour annoncer ces votations, comme on dit chez nous. On fait des affiches et il y a une tradition qui fait qu'on fait appel à des dessinateurs pour illustrer ces différents thèmes politiques, sociaux et tout ça. Donc tout ça fait que Genève a déjà une histoire spéciale avec l'image et le dessin. Voilà. Il se trouve également qu'il y a à peu près plus de 20 ans, il y a un couple absolument adorable, un peu chaotique, mais plein de bonnes intentions, qui ont décidé de démarrer une maison d'édition, que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui s'appelait Atoz ou Atouz, et qui ne voulait pas du tout passer par la case fanzine, mais tout de suite avoir une belle maison d'édition, avec une revue qui s'appelait Sauf qui peut, ils voulaient publier des albums, ils ont fédéré plein de talents genevois, et c'est à travers cette aventure-là, parce que moi j'écrivais des petits articles dans leur revue, que j'ai rencontré Baladi, Helge Roman, les frères Robel. Je connaissais déjà Frédéric, mais voilà, ça a fédéré plein de gens. Il se trouve que la revue et la maison d'édition n'ont pas vraiment tenu ses promesses, surtout qu'ils avaient on va dire, certaines promesses d'entrée d'argent qui ne sont jamais arrivées. Donc tout s'est rapidement cassé la figure. Et pour la petite histoire, c'est les premiers à avoir publié aussi bien les livres des futures éditions Frémok, donc des Belges de Frémok, donc des gens assez avant-gardistes, et aussi les premiers à avoir publié Zep. Donc voilà, ça montre aussi qu'il n'y avait pas une grosse vision d'éditeur. Et en plus, les... Non, mais c'est vrai, ils mettaient un peu. C'est vraiment des gens qui avaient envie de monter une maison d'édition sans avoir une vraie vision d'éditeur. Et nous, moi je le raconte à chaque fois qu'on parle d'Atrabile, pour moi ça nous a vraiment servi d'exemple des choses à pas faire. C'est-à-dire partir trop fort, partir sans vision, promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Et ils promettaient de l'argent à tout le monde qu'ils n'ont jamais pu payer personne. Voilà. Donc une fois que tout ça s'est cassé la figure, Genève était un petit peu orphelin de cette maison d'édition, et il se trouve que moi j'avais un ami, Benoît Chevalier, qui est mon associé aujourd'hui, qui s'est dit, bah, tiens, peut-être qu'on pourrait essayer de monter une maison d'édition. Donc on a commencé modestement en faisant un petit fanzine qui s'appelait Bille Noire, où on allait rechercher un peu les gens qu'on avait rencontrés à l'époque de Sauve qui peut. Et il se trouve qu'au même moment, un ami qui s'appelait Christian Berdreau, qu'on ne connaissait pas encore, qui était un sérigraphe un peu cinglé, a commencé une revue qui s'appelait Drosophile, qui était une grande revue sérigraphiée. Et à l'autre bout de Genève, un troisième larron qui s'appelle Nicolas Robel, qui est un graphiste, démarrait une toute petite maison d'édition qui s'appelle Bulle Comics. Donc tout d'un coup, à Genève, autour de 1997, il y a une espèce d'effervescence autour de la bande dessinée, avec trois petites structures éditoriales. Évidemment, on était condamnés à se rencontrer, et très vite, on a décidé de faire des choses ensemble, de partir à Angoulême ensemble, de prendre un stand commun. Et moi, je me suis dit, ben, tiens, on galère chacun de notre côté à poser nos sacs en librairie, on n'avait pas de diffuseur évidemment, On faisait des livres, ils étaient dans ma cuisine, il fallait bien faire quelque chose, je mettais ça dans mon sac, j'allais voir les libraires, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et on a décidé de créer une petite structure de diffusion à trois, voilà. Et puis de fil en aiguille, être habile à un petit peu pris du coffre, et on est devenu un éditeur à part entière, surtout qu'à la base, pour nous, l'idée, c'était d'être une espèce de tremplin pour tous les auteurs genevois que j'évoquais tout à l'heure, qui à l'époque, à l'image de Vazem, de Tom Tirabosco, s'ils voulaient être édités, devaient prendre le TGV, aller démarcher à Paris, à Bruxelles, voilà. On s'est dit, c'est dommage, surtout qu'ils vont arriver là-bas, les mains vides, avec un cartable, tout ça. Est-ce que Atrabile pourrait pas être un tremplin pour ces gens-là? Donc il y avait vraiment quelque part l'idée d'être une espèce de soutien à la scène locale plus que l'envie d'être un éditeur à part entière. En fait, après, on s'est dit qu'en fait, pourquoi est-ce que les gens devraient partir? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas construire quelque chose à Genève? Donc voilà. Voilà, c'était. Alors les premiers bouquins, c'est Bille Noire, donc c'était une revue qui était un petit format. On a vraiment démarré très modestement, hein. C'était un fanzine tiré à 200 exemplaires. Et c'était un petit bouquin de Frédéric Peter qui s'appelait Fromage Confiture, qui était un petit format A5 de 24 pages, je crois. Voilà, photocopié, couverture sérigraphiée. Et en fait, ça a plutôt marché. C'était assez surprenant d'ailleurs, parce que nous, on partait vraiment d'une façon assez relaxe, en faisant des trucs dans notre coin. On a fait un vernissage dans un bistrot, il y avait 20 personnes. Et en fait, on a des journalistes qui sont venus nous poser des questions. On a eu tout de suite une attention quand on est arrivé à Angoulême avec nos petits machins. Il y a eu de l'attention. Je pense que ça serait beaucoup plus compliqué de démarrer maintenant avec les moyens qu'on avait à l'époque. Mais il y a 20 ans, je pense qu'on tapait pas si faux. Et je veux pas dire qu'on répondait à une attente, mais en tout cas, on proposait quelque chose qui était modeste, mais assez inédit, assez intéressant pour que des gens de la bande dessinée ou en dehors de la bande dessinée s'intéressent à ce qu'on faisait. Voilà.
Oui, et surtout que vous faites partie des premiers éditeurs indépendants après l'association en 90, les Requins Marteaux et Cornelius en 91, plus tard, donc vous quelques années plus tard. Et alors, vous parliez de politique éditoriale, justement avec des exemples à ne pas faire ou à faire. Atrabile, le nom, je sais, ça c'est la question qu'on demande à un groupe de musique en général, détestent.
C'est un petit peu pareil en fait, je dirais pas que j'ai honte, mais il fallait qu'on trouve un nom et j'avais un dictionnaire et j'adore le dictionnaire, enfin, je m'y plonge souvent pour ne serait-ce que vérifier l'orthographe de ce que je lis et tout ça. Et en jouant avec des choses qui semblaient nous définir à l'époque, c'est-à-dire un côté peut-être un peu sombre, torturé, angoissé, misanthrope, on est tombé sur Atrabile, on s'est dit, tiens, c'est chouette, et on s'est dit assez vite qu'en fait, ça pouvait se décliner dans des futures collections, qui étaient encore à l'époque très fantasmées, puisque Atrabile, donc ça veut dire bile noire, et que la bile noire, c'était un des fluides, une des humeurs qui passait pour causer la mélancolie dans la médecine ancienne. Et qu'on imaginait à l'époque que toutes les maladies venaient de ces humeurs et du déséquilibre des humeurs, et du coup le sang, la bile blanche, la bile noire, le flegme, tout ça créait les maladies, et on s'est dit, ça pourrait à la fois nous résumer et aussi se décliner à travers des collections. Ce qui a créé au départ des petits malentendus, parce qu'en fait, on nous proposait des choses, du coup, soit très noires, soit de l'humour noir, toujours quelque chose qui avait une connotation sombre. Et on dit, mais c'est pas du tout, on n'est pas des gothiques, ni des. Enfin voilà. Et ça a créé une petite confusion, voilà. Puis maintenant, on vit avec. Et,
tout n'est pas mélancolique chez Atrabile, loin de là. Et alors, on va peut-être prendre l'avis aussi de Frédéric Peters, qui est un des historiques du catalogue. Frédéric, comment vous voyez cette maison d'édition? Comment vous les avez rencontrés? Comment ça s'est passé?
Nous, on se connaît depuis bien avant. Non, mais je rigolais parce qu'à cause du historique, puis après historique, il y a le patrimoine. Alors bientôt, ce sera patrimoine. Mais nous, on se connaissait avant. En fait, c'est marrant parce que moi, je dois souvent expliquer ce genre de choses lors d'interviews ou de discussions. Puis j'explique pas du tout la même chose. C'est hyper intéressant d'avoir ta version. Nous, c'est, je sais même pas en fait d'où on s'est rencontrés, mais c'était bien avant, fin de l'adolescence. Et puis, je pense que c'est des réseaux d'amis. Et en fait, je pense, mais là, c'est vraiment, ça devient trop confidentiel, mais c'est intéressant quand même. Ça s'est fait autour d'un magasin, je pense. Je pense que c'était autour du Paradoxe Perdu, qui était un magasin de, d'import, enfin de bande dessinée, comics, DVD japonais étrange. Enfin non, c'était bien avant les DVD, cassette vidéo japonais étrange, etc. Et puis, c'est le seul endroit où on trouvait des imports américains, les tout, enfin, je me rappelle que c'est là qu'on a découvert les tout premiers Chrisware en venu directement des États-Unis, etc. Et puis, Genève, c'est une toute petite ville, mais par Benoît aussi, je sais pas, c'est pas extrêmement intéressant de savoir d'où ça vient, mais en tout cas, c'est avant à Trabien. Puis après, c'est des centres d'intérêt, vous voyez, c'est comme quand on est à l'école primaire et puis qu'on est le dessinateur, généralement, il y en a qu'un seul autre de dessinateur dans l'école primaire, donc fatalement, on se rapproche. Bah là, Genève, c'est une toute petite ville, donc les gens qui aiment la bande dessinée et les objets littéraires un peu bizarres, ils se retrouvent très vite les uns avec les autres, j'ai l'impression.
Alors, pour être complet, parce qu'on nous a posé la question récemment parce qu'il y avait une grosse expo à Genève autour de, bah d'un prix local qui s'appelle le prix Töpfer. Et du coup, ils ont fait un travail où ils ont essayé de tracer un peu l'histoire de la bande dessinée à Genève sur les 20 dernières années. Et on nous posait un peu des questions comme ça avec mon associé, donc Benoît. Et lui, il remontait ça à quelque chose. J'ai envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant. À la scène, parce qu'en fait, lui, il remontait la base de tout ça à un fanzine et à l'organisation d'une expo au squat des négociants avec Fabien Picon et tout ça. Donc ça ne dit rien à personne, mais c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Non, mais en fait, ça prend racine dans une culture alternative genevoise qu'il y a eu dans les années 90, où Genève, pendant ces années-là, était la ville la plus squattée du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de spéculateurs qui achetaient des immeubles et qui attendaient quelques années avant de les revendre à des prix délirants. Et pendant tout ce temps, ces immeubles étaient vides. Et on avait des politiciens relativement cool autour de ça pendant quelques années. Ce qui fait que tous ces immeubles étaient occupés par de jeunes gauchistes surmotivés. Et que chaque squat avait une identité, un bar, une salle de concert, des ateliers, et qu'il y avait du coup une énergie, une effervescence créative assez folle jusqu'à un lieu qui s'appelait Artemis, qui était une énorme friche industrielle. Il y avait je sais pas combien de petits bâtiments. Enfin, c'était énorme, quoi. Et moi, j'ai fait de la musique là-bas. On avait un local à l'époque où je faisais un peu de musique. Mon associé a monté sa boîte de graphisme là-dedans. Il y avait un journal culturel et tout ça. Et donc, Atrabil est aussi le fils de cette effervescence culturelle un peu anarchisante, un peu alternative, quoi. Il y avait cette idée du do-it-yourself, en fait, cette idée que... Il faut faire les choses nous, il ne faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit, et on part de tout en bas, on va faire les photocopies, on prend un massicot, on fait des sérigraphies et tout ça, quoi. Il y a aussi cette origine-là, entre autres. Ouais. Maintenant,
j'arrête. C'est vrai. Non, mais j'ai rien, c'est vrai. Culture squat, c'est bien.
Merci. Et donc Benoît, près de Seille, qui est donc là.
Bon, moi, nouveau, je suis un petit dernier, oui. Déjà, je suis vachement plus jeune, j'ai pas du tout connu les squats à Genève. Mon livre, c'est le premier que je fais avec Atrabil, j'en ai fait d'autres avant, mais il est sorti fin 2016, donc je rentre dans l'histoire de la maison d'édition de façon assez récente. Mais pour moi, en fait, ouais, on était parti en vacances avant. Bon, on se connaît depuis quelques années, mais pour moi, oui, quand j'ai commencé à faire de l'édition en bande dessinée, parce que j'ai monté une maison d'édition en 2004-2005 qui s'appelait Varum, que j'ai quitté depuis, mais qui s'appelle toujours Varum. Et pour nous, à Trabil, ça faisait partie des dinosaures à abattre, quoi. Enfin, c'était, c'était déjà devenu des espèces de citadelles imprenables où, en fait, quand on arrivait en sortant d'une école d'art, on se disait, ouais, mais non, mais de toute façon, à Trabil, on n'arrivera jamais à rentrer là-dedans. C'est des... Si je t'ai envoyé un projet que tu as refusé à l'époque. Oui. Et du coup, on a monté une maison d'édition pour essayer de justement promouvoir une nouvelle vague de bandes dessinées alternatives qu'on avait l'impression de devoir défendre parce que les maisons d'édition déjà hyper vachement établies et ultra solides comme à Trabil pouvaient évidemment pas sentir le nouveau vent de la bande dessinée. Voilà.
Et finalement, donc dans, je vais un peu parler comme ça de votre travail, Benoît Pretzey. Donc après, c'est une des grandes thématiques dans votre travail, c'est l'art, le domaine de l'art, qu'on retrouve après l'art et le sang, avec une sorte de fantomas et son esthétique du crime, et l'art macaque chez Cornelius, qui revisitait les grands moments de l'histoire de l'art avec des singes. Et là, on vous retrouve aussi donc avec d'autres publications chez Yon, donc une autre structure éditoriale, donc maintenant votre maison d'édition aussi, avec autour des musées, notamment Bologne et Maubeuge, que je vous conseille aussi, qui sont très bien, de belles visites prévues avec Benoît. Et là, vous développez donc une biographie autour de Marcel Duchamp. Donc, pour quelles raisons ? Alors, vous dites que vous êtes hanté par cet artiste. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est quelqu'un qui, moi, m'intéresse et me perturbe depuis que j'ai environ une quinzaine d'années, en fait. Il y a des moments un peu fondateurs où on se retrouve face à un rayon de librairie où il y a à peu près tous les Taschen possibles et imaginables, avec des peintures extrêmement sublimes et chatoyantes sur toutes les couvertures. Et puis on a envie de devenir artiste, on se dit, tiens... Il faut absolument que je sois influencé par quelqu'un dans tout ça. Et puis on voit une des couvertures au milieu où il y a une roue de bicyclette accrochée sur un tabouret. Et ça paraît quand même extrêmement bizarre. Et en fait, j'ai décidé d'acheter ce livre-là pour voir de quoi ça causait. Et en fait, ça a commencé vraiment à me poser question depuis ce moment-là. Et j'ai continué à m'y intéresser régulièrement, souvent, depuis. Et ça m'a jamais vraiment quitté. Après... Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était avec un espèce de bagage étrange qui est mes études que j'ai faites aux Arts décoratifs de Paris, qui étaient des études de scénographie où j'ai étudié en fait le. Enfin, moi je voulais étudier la muséographie, donc comment mettre en espace des œuvres d'art dans un musée ou dans une exposition. Et en fait, avec cet intérêt-là et cette formation-là, j'ai commencé à faire une bande dessinée que je crois un petit peu différente et qui donc se posait ces questions-là de comment essayer de parler de la création, de ce que c'est que d'être un artiste, de ce que c'est que l'art au travers de la bande dessinée. Et donc je me suis posé plein de questions différentes sous différents angles dans différents livres, et celui-ci, en fait, c'était vraiment la question de savoir comment et pourquoi ce garçon qui fait des œuvres a priori complètement incompréhensibles et parfois assez décevantes esthétiquement et très très peu séduisantes souvent, pouvait être toujours quelqu'un d'important 50 ans après sa mort, et comment est-ce que on se trouvait toujours amené à revenir à lui, et à chaque fois qu'il y a un article n'importe où sur l'art contemporain le plus pointu, il y a toujours son nom à lui qui ressort comme une référence éternelle. Enfin, c'est assez étrange de voir le point central qui peut rester malgré tout, quoi. Et donc ce livre-là essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est toujours célèbre aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il est toujours important ? Parce que c'est pas par hasard, et il a vraiment construit cette position centrale. En fait, c'est pas le marché de l'art qui lui a donné, c'est vraiment lui qui, de façon très sournoise, a construit ça. Et donc j'explique tout ça, toute sa démarche, et en essayant d'aller vraiment largement au-delà des œuvres qui sont les plus connues, pour essayer de montrer toute la démarche dans son ensemble, parce que c'est vraiment une galaxie, en fait, du champ. Si on s'arrête juste à une œuvre, ça a assez peu d'intérêt. En fait, il faut essayer d'avoir son chemin et ses réflexions et aussi son travail d'écrivain en tête pour comprendre à peu près l'intérêt de son travail, quoi. Et c'est pour ça. Parce que son travail est entre l'écrit, entre le pictural, entre l'installation, que je trouvais que la bande dessinée était une bonne façon pour parler de lui. Enfin, je ferais pas plein de biographies de plein d'artistes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment celui-ci, parce que il a un travail qui est intéressant à développer en bande dessinée. En fait, quelqu'un qui aurait vraiment un travail très sur la matière de la peinture, je verrais pas forcément bien l'intérêt de faire une biographie sur lui, quoi. voilà, globalement.
Oui, justement, avec toute cette mode de la biographie en bande dessinée, ce qui est intéressant là, avec vous, c'est qu'on on est vraiment sur son travail, sur toute sa réflexion, et vous écartez sa vie personnelle, en fait.
Ben, j'en parle dans la mesure où elle fait partie de son œuvre, mais c'est vrai qu'il est, c'est quelqu'un qui est assez décevant aussi dans sa vie privée, c'est-à-dire qu'il a, il a pas vécu de grandes aventures incroyables. Non, mais c'est vrai, pendant la guerre, il a déserté, il a flirté avec des femmes qu'il a quittées dès qu'elles commençaient à s'accrocher un peu trop. Il a jamais eu d'activité professionnelle très très durable et très très investie. Enfin, il a, c'est vraiment un artiste de la déception, en fait. C'est assez. Et donc ça fait partie de ça, et c'est vrai que ça se pose un peu en faux par rapport à la plupart des biographies aujourd'hui, où on s'attache plus à quelque chose de folklorique, en fait, où on est très content de montrer un artiste au milieu de la faune bariolée de Montmartre dans fin 19e, et on est ravi de dessiner des belles robes à crinoline. Bon, bah, Duchamp, non, on le voit en train de faire des échecs dans son fauteuil, en train de lire des livres. Enfin, c'est nettement moins moins affriolant, quoi. Mais oui, c'est une vraie aventure intellectuelle, et c'est ça qui m'intéressait par rapport à l'idée de faire une bande dessinée autour de lui, quoi. C'était vraiment développer tout ça.
Et alors, un moment, dans cette lecture, on peut retrouver une phrase qui dit « De toute façon, une œuvre est faite par ceux qui la regardent ». Alors, s'il y avait une œuvre de Duchamp que vous avez beaucoup regardée, si vous deviez en garder qu'une et nous en parler un petit peu. Une qui vous hante peut-être plus que les autres.
Une œuvre dont je me souviens, qui m'a vraiment frappé, en fait, quand je l'ai vue, c'était son œuvre posthume, en fait, étant donné, qui est à Philadelphie. Donc j'étais aux États-Unis il y a quelques années, j'ai fait le détour par Philadelphie exprès pour aller la voir. Donc il y a une espèce de pèlerinage où on voit cette chose avec deux photos en général dans les livres d'art, parce que c'est une grande porte de grange. Donc on arrive face à une porte de grange. Bon, donc en général, dans les livres, on a la photo de la porte de grange. Bon. Et en fait, il faut s'approcher et aller regarder dans deux trous qui sont dans la porte. Et quand on passe, quand on regarde par ces deux trous comme un voyeur au travers de la porte de la grange, il y a une femme nue, apparemment morte, les jambes écartées, qui est en train de porter un bec de gaz avec une main, et c'est avec une main complètement rigide et bizarre. Enfin, c'est une scène très très perturbante, et ça c'était un sacré choc, en fait, de la voir en vrai, parce qu'en fait c'est pas seulement voir l'image que ça crée, c'est vraiment voir la profondeur de ça, c'est sentir l'odeur du vieux cuir et des branchages en train de pourrir depuis les années 70. Enfin, de voir aussi qu'il y a un mouvement, en fait, dans cette œuvre où la petite fontaine, la petite chute d'eau qui est au fond, en fait, est animée comme les tableaux de chute d'eau dans les restaurants asiatiques. En fait, il y a le même truc de lumière qui vibre pour montrer ça. Et ça dégage vraiment un goût très étrange de perversité. Enfin, on se sent pas très bien quand on regarde ce truc. Enfin, on se sent un peu sale, un peu complice de quelque chose qui est, parce qu'apparemment cette femme a quand même subi quelque chose d'assez violent. Enfin, donc c'est très très perturbant, en fait. Et ça, je suis resté assez scotché, en fait, quand j'ai vraiment eu accès à l'œuvre en elle-même, parce que c'est quelque chose dont on se rend pas du tout compte quand on voit uniquement les photos. Ouais.
Merci. Et alors, il y a une petite phrase aussi qui m'a interpellée dans Museo Infinito de LL de Mars, donc chez Yon. Tout à la fin, il est noté que montrer une scène en peinture où on va l'élargir, hein, c'est prendre position dans le monde de multiples manières. Alors, quelle est votre position par rapport à Duchamp quand vous présentez justement ce travail-là, par rapport à votre travail peut-être plus personnel, parce que là, vous vous mettez en retrait aussi.
Bah oui, là, l'idée, c'était vraiment de faire le malin le moins possible, en fait. Parce que Duchamp, c'est quelqu'un qui a une œuvre qui est très ouverte. Et en fait, il y a plein de gens qui, du coup, ont fait des grands livres où ils expliquent Duchamp de A à Z avec leur hypothèse à eux, dont ils estiment que c'est vraiment la meilleure et l'ultime explication à toute l'œuvre de Duchamp. Et en fait, moi, c'était vraiment une démarche beaucoup plus modeste de simplement montrer un espèce d'itinéraire artistique et personnel, en fait, enfin, de Duchamp lui-même, de présenter ça à un lecteur qui n'y connaîtrait pas forcément grand-chose et d'essayer de montrer toute la variété des œuvres sans forcément donner d'explication définitive, sans forcément faire l'étude la plus poussée qui soit non plus. C'est plein de pistes, c'est plein d'ouverture que j'essaye de donner, mais j'ai pas la réponse sur ce que cet artiste-là veut précisément créer. En fait, c'est très mystérieux, et je pense que lui, à dessein, il a essayé que ça reste le plus crypté possible, parce que ça rend aussi ça donne l'air beaucoup plus intelligent quand on crypte absolument tout. Et en fait, moi, par moment, juste, j'essaye d'avoir cette attitude de passeur, en fait, pour simplement montrer des œuvres qui sont dispersées, les montrer tout ensemble pour voir comment elles dialoguent entre elles. Et puis, par moment, je me permets aussi quelque chose que je me permets dans d'autres de mes livres, c'est-à-dire de relativiser un petit peu l'importance de certains objets, de certaines œuvres. Enfin, c'est un travail que je fais en général, d'essayer de se poser face à un tableau, même dans la plus grande institution du monde. On peut tomber face à un tableau et se dire vraiment cette œuvre est immonde et je vois pas du tout ce qu'elle fout là, même si elle est signée par le plus grand peintre le plus connu. Ben en fait, c'est moche, c'est raté, excuse-nous Pablo, mais là vraiment c'était pas une bonne journée pour toi. Et en fait, je pense que cette liberté là elle est vraiment importante de par moment prendre un petit peu de distance et se dire bon ben voilà, tout ce qu'on crée, ces artistes qu'on dit être des génies absolus, ben, tout n'est pas à prendre en bloc. Et par moment, Duchamp, certaines œuvres qu'il a faites étaient sûrement très très modestes, ou parfois ratées, ou parfois réservées à une espèce de private joke pour trois personnes. Et pourquoi ne pas le dire, en fait? Pourquoi forcément aller chercher une grande explication extrêmement intellectuelle et artistique, alors que parfois peut-être c'est aussi juste une connerie qu'il a faite pour l'anniversaire d'un ami. En fait, les artistes, ben, on en fait partie aussi, et du coup ben, on est assez bien placé pour savoir que toutes les œuvres de notre vie ne sont pas forcément à étudier sous toutes ces coutures pour en retirer la profondeur totale. Parfois, c'est assez superficiel aussi. Et donc, quand j'ai l'indice d'éventuellement une œuvre qui serait à relativiser, je le dis. Enfin, voilà.
Frédéric, est-ce qu'il y a des artistes mentors, des artistes comme ça qui pourraient te plaire, vous plaire à traiter en bande dessinée? Est-ce qu'il y a...
Là, comme ça, non. Enfin, des artistes mentors, oui, plein, mais à traiter en bande dessinée, non. Pour l'instant, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Mais pourquoi pas? Enfin, non, mais là, j'ai la tête pleine de plein d'autres choses. On ne peut pas tout mettre dans sa tête. Mais pourquoi pas? Non, mais en fait, je ne l'ai pas lu, le livre, et ça me donne très envie. Mais en fait, j'avais déjà envie avant, hein, mais... mais ça, non, mais je trouve que c'est hyper intéressant, voilà. Pourquoi rajouter quelque chose?
Daniel, peut-être, ce projet, donc, tu peux nous expliquer...
Non, mais moi, ce qui m'a hyper séduit, à part le plaisir de travailler avec Benoît...
Je te coupe juste, je fais une toute petite parenthèse, parce qu'il y a un temps, il y avait une mode qui était les adaptations de littérature en bande dessinée, puis après, même il y a des films qui sont adaptés en bande dessinée. Alors, l'histoire des artistes mentors. Et de... un soir, tu t'en rappelles peut-être pas, mais en ayant un peu trop picolé dans sa cuisine, on s'était dit, il y a de nombreuses années, on va lancer une collection, on va faire des adaptations de bande dessinée en bande dessinée. Ça pourrait être intéressant. Ça me traverse, ça me revient maintenant.
Si, je m'en souviens. Non, moi, ce qui m'a, en fait, je ne vais pas redire ce qu'a dit Benoît, mais moi, ce qui m'a évidemment plu, c'est le côté, comment dire, décomplexé avec lequel il aborde le travail de Duchamp, parce que personnellement, j'ai pas du tout le rapport que lui a avec Duchamp. Moi, Duchamp, je l'ai connu assez tardivement, après en avoir beaucoup entendu parler, donc c'est plutôt quelqu'un qui me casse les pieds, parce que c'est une figure inévitable, tutélaire, dont on parle tout le temps, et puis moi, ça m'ennuie, en fait, voilà. Et c'est une espèce de dieu sur lequel qu'il ne faut pas toucher, et effectivement, c'est quelqu'un sur lequel on a beaucoup écrit, beaucoup dit, beaucoup parlé, sans doute à tort et à travers, et évidemment que Benoît fasse quelque chose qui n'est pas du tout une hagiographie, mais tout d'un coup qu'il puisse dire, ouais, bon là, c'est pas terrible, c'est déceptif, voilà, moi, ça peut comme séduire, et tout d'un coup, traiter Duchamp et le ramener... Bien qu'il ne parle pas de sa vie privée, mais le ramener à son statut d'homme et en faire un artiste à part entière sans que ça soit quelqu'un sur un piédestal dont il faut vénérer la moindre chute de renure d'ongle, moi je trouve ça, déjà ça m'a enthousiasmé. Voilà. C'était vraiment cet angle-là qui m'a passionné en fait. Au-delà du fait qu'en plus, en termes de lecture, c'est passionnant. C'est-à-dire, même le fait qu'ils disent. Voilà, il faut recadrer Duchamp, il faut aussi savoir aborder tout ça. Et moi, je trouve, en fait, il le fait d'une façon en fait, où il arrive à produire un objet qui est passionnant à lire.
Voilà. Oui, si je peux préciser, c'est pas du tout un livre qui est là pour défoncer Duchamp non plus. Moi, je suis très admiratif de son travail et je trouve que c'est une œuvre fondamentale et hyper importante et c'est pas du tout une attaque. Contre son travail, c'est juste essayer de par moment relativiser certaines œuvres, mais il y a des œuvres absolument incroyables et c'est très très mérité le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, hein, ça je précise vraiment.
Non, mais pour prendre un équivalent en bande dessinée, par exemple, une figure comme Hergé, c'est une figure quelque part qui des fois qui bouche un peu le ciel, c'est-à-dire qu'on a du mal à la dépasser et on revient toujours dessus et on ressasse et tout ça. Et moi, je trouve que là, justement, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu es très loin de tout ça. C'est-à-dire que tu vas ni analyser une petite phrase qu'il aurait dit quand il avait 6 ans qui montre que, ni te mettre à genoux devant ce dieu et tout ça. C'est ça que j'essayais de dire. Hein.
Daniel, peut-être justement, on va peut-être parler aussi maintenant du travail de Frédéric Peeters. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu aimes chez lui?
Tout.
Parce qu'après, on ira peut-être plus sur...
T'es sûr de la pertinence de l'exercice.
On est là pour s'envoyer des fleurs, c'est ça.
Non, moi, ce que je peux raconter, par contre, c'est... comme Frédéric le racontait, l'expliquait un petit peu, il était là dès le départ, donc c'est un peu le... Non, j'allais dire le cinquième Beatles, mais ça n'a pas de rapport. C'est quelqu'un qui a toujours été présent à Attraville, sans pour autant faire partie de la maison d'édition, donc il a un peu un rôle spécial à Attraville. Et puis d'un autre côté, dès que, surtout à l'époque, dès qu'on avait besoin d'un petit dessin, il fallait faire une couverture de catalogue, une illustration pour un t-shirt, un poster. Allô Frédéric, voilà, il était toujours présent. Là, voilà. Et puis c'est aussi lui qui, quelque part, nous a fait confiance quand on a fait Fromage Confiture ou Brandon Bellard, qui était le deuxième livre qu'on a fait ensemble. Quoi.
J'ai pas fait confiance, j'avais pas le choix, quoi. Non, mais c'est-à-dire, on se posait même pas la question, on faisait les...
Voilà, il y avait une espèce de complicité, et voilà. Donc on faisait les choses ensemble. Et puis, je le voyais partir après sur d'autres chemins, faire des choses pour d'autres personnes, prendre d'autres directions. J'étais un petit peu dubitatif. En même temps, chacun est très libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Et un jour, quoi...
Elle est très
on va régler quelques vieilles histoires. Non, mais
elle est très possessive. Mais...
C'est ce que j'essaie de... Ouais. Et voilà, un jour, il m'a dit, tiens, il faut que je te fasse lire un truc. Et c'était à peu près les quoi, 80 premières pages de Pilule Bleue.
35.
35 premières pages de Pilule Bleue. Et c'est vrai que j'en suis resté un peu bouche bée. En me disant... à mon fort intérieur, je me dis, mais en fait, c'est ce que j'attendais de Frédéric. Quoi. C'était ce que j'avais envie qu'il fasse. C'était qu'il prenne cette direction-là et pas qu'il essaye de... peut-être de s'éloigner un petit peu trop, de, voilà, qui prennent des chemins qui ne me semblaient pas super intéressants. Donc je pense que je lui ai donné un coup de téléphone, sans doute d'un enthousiasme assez mesuré, mais assez sincère pour lui dire qu'il fallait, voilà, que c'était absolument parfait. Et qu'il fallait absolument continuer là-dessus, quoi. Puisque, et puis, en plus, c'était le début un petit peu de cette plus ou moins mode des récits autobiographiques. Et évidemment, on s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il y avait beaucoup de choses intimes. De toute façon, on s'est dit, tout ça, ça va faire un livre qui va être lu par 850 personnes. Nous, on en sera hyper contents, comme tout ce qu'on fait. Et puis, ça sera très bien comme ça. Voilà. C'est pas spécialement que je veuille me vanter des chiffres et on n'est pas là pour ça, mais là, ça fait quoi, 15 ans que le bouquin est sorti. On a vendu pas loin de 50 000 exemplaires, ça a été traduit en 15 langues. Et c'est un bouquin de fond qui trouve toujours, qui chaque année continue à trouver ses lecteurs. Donc c'est vraiment à la fois un petit miracle et vraiment un rêve aussi bien, je pense, pour un auteur que pour un éditeur, quand on a ce genre d'histoire, au-delà de la qualité intrinsèque du bouquin, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on arrive à avoir entre les mains une œuvre où tout d'un coup, ben, c'est quelque chose qui reste. Ça, c'est vraiment... voilà.
Alors, d'ailleurs, pour les pilules bleues, donc sorties en 2001, ouais, c'est ça, il y a eu une réédition en 2014 où, Frédéric, vous avez rajouté quelques planches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce que c'est, ces planches, hein?
Parce que, en fait, je pense que soyons francs. Je pense qu'à la base, c'est comme il y a eu plusieurs rééditions. Mes souvenirs, ils sont un peu, parce que tous les livres se mélangent un peu. Mais d'après ce que moi je me rappelle, à un moment, tu voulais passer à la version cartonnée, c'est-à-dire vraiment rebooter, comme disent les Américains, le livre. Hein,
c'est... Non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que pendant toutes ces années, pendant 12 premières années, on s'est contenté de rééditer, de réimprimer le bouquin. Mmh. C'est-à-dire, ben voilà, il était épuisé, on en réimprimait 3000. Il était épuisé, on en réimprimait 3000. Ça faisait 12-13 ans, moi je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être une génération de gens qui ne l'ont pas connu, peut-être une génération de gens qui l'ont lu il y a très longtemps. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire une nouvelle édition et de, au-delà du fait de le faire encartonner, de rajouter quelque chose voilà. Et en discutant avec Frédéric, il s'est dit, ben oui, si on lit le livre aujourd'hui, il y a des choses au niveau de la médecine qui ont énormément changé, au niveau des traitements qui ont énormément changé. Peut-être que ça serait intéressant aussi de faire le point. Avec quelques pages supplémentaires. Je dis, bah, qu'est-ce qu'on attend ? Et puis, il y avait aussi ce truc qu'on a à l'époque, je me dis, est-ce qu'on était motivé à l'époque ? On avait fait quand même un post-scriptum qu'on a imprimé à 50 exemplaires et qu'on a mis dans les bouquins qu'on a envoyés aux journalistes. Donc, il a fait quand même 2 ou 4 pages que personne n'avait lu, qu'on trouvait très mignonne. Et je me dis, mais ça aussi, c'est dommage que ces pages étaient réservées à... Vraiment, en plus, vraiment les premiers services de presse, quoi. Vraiment 50 exemplaires. Voilà. Donc, on s'est dit, bah, tiens, sans faire les fonds de tiroir, est-ce que ça serait pas chouette et de republier ces pages et de faire cette petite mise au point. Et lui, du coup, est venu avec cette espèce d'étrange interview qui fait des protagonistes 12 ou 13 ans plus tard. Ouais.
Voilà. Oui, parce qu'il y avait l'histoire des données médicales, les traitements, tout ça. En plus, il y avait une fille qui était née entre-temps. Alors, juste montrer, enfin, c'était pas pour montrer, parce que j'ai rien à montrer, mais il se trouve que c'est possible. Alors, ça fait partie de ma vie et de la réalité maintenant. Donc, si on rajoutait des pages supplémentaires, il fallait la faire apparaître et lui donner une place, essayer de lui faire donner un avis sur tout ça. Enfin, pas un avis, mais son point de vue, la façon dont elle a traversé les choses. Et puis c'est amusant, puis intéressant, je trouve, quand on... C'est-à-dire que quand on écrit des histoires comme ça, et moi je ne fais que ça de façon obsessionnelle, comme ça, c'est-à-dire qu'on vit avec toute une ribambelle de personnages le temps qu'on fait les livres, quoi. Et quand les personnages sont inventés, fictifs, c'est des espèces de compagnons un peu fantomatiques, comme ça, et qui disparaissent, et puis on a de la peine à imaginer qu'ils vont continuer à vivre ensuite. Tandis que là, il y a une espèce de confusion au moment où on fait ce livre-là. C'est-à-dire que C'est-à-dire que c'est des personnages réels. Alors c'est ma vie, si vous voulez, mais c'est, en même temps c'est pas ma vraie vie, parce que sinon c'est ce que je dis toujours. Si vous devriez lire l'équivalent d'un an de ma vie, vous devriez prendre un an à lire le livre. Si c'est vraiment c'était ma vie, donc ça n'est pas ma vie. C'est une espèce de raffinage de ma vie comme ça. Alors là, tout d'un coup, ils sont à mi-chemin entre des personnages fictifs, parce que je les ai redigérés, mais en même temps, c'est des personnages réels. Alors c'est amusant de leur... Ils ont continué à vivre. C'est des personnages qui continuent à vivre en dehors du livre. Et tout d'un coup, on les rechoppe comme ça, au bord de la route, 10 ans après, hop, on repasse sur une autre. Ah, ils sont là, puis on s'arrête, puis on va boire un café. Il y a quelque chose comme ça. C'est à mi-chemin entre la vraie vie et le personnage fictif. C'était amusant à faire. Et du coup, moi, j'apparais pas dans ces pages supplémentaires. C'était vraiment comme... Ouais, de redonner une dernière fois la parole à ces personnages, ouais, c'est ça.
Mais moi, ce que j'apprécie en plus chez Frédéric, c'est que les quelques bouquins qu'on a fait ensemble étaient à chaque fois une surprise. Fromage Confiture, Brandon Bellard, qui appartiennent vraiment à une autre histoire. On était dans une certaine époque. Brandon Bellard, c'est des histoires, il y a beaucoup de gags, beaucoup d'humour et tout ça. Tout d'un coup, le bouquin d'après, c'est Pilule Bleue. Après Pilule Bleue, les mois passent. Et qu'est-ce qu'il nous propose ? Une histoire de science-fiction avec des types qui prennent des drogues et qui s'éclatent dans l'espace et tout ça. Et on se dit, tiens, mais voilà. Alors, ça aurait pu être facile de faire de l'autobiographie, surtout que c'était vraiment la mode, entre guillemets, à l'époque. Il aurait pu prendre ce chemin-là, voilà. Donc on fait les quatre lupus, il va voir ailleurs, il revient chez nous avec ce récit hyper bizarre qui est Château de Sable, entre Buñuel et un épisode de la quatrième dimension. Voilà. Et puis je sais que si on refait quelque chose ensemble un jour, ce que j'espère, et, voilà, ça sera encore très très différent. Donc évidemment, ça c'est aussi complètement génial de se dire, bah, on n'est jamais dans une zone de confort complète, on n'est jamais sur des rails tout tracés, mais il y a toujours un petit truc... voilà. Et ça, en tant qu'éditeur, c'est aussi le pied, quoi. Puisque moi, en tant que lecteur, et ce que j'essaie aussi d'amener un petit peu en tant qu'éditeur, c'est la surprise. Il n'y a rien de plus pénible d'être dans le confort absolu et de savoir déjà en ouvrant la première page où on va à la dernière, quoi. Donc, on a besoin d'être surpris en tant que lecteur, et j'ai besoin d'être surpris aussi en tant qu'éditeur quand on propose quelque chose. Donc, c'est, voilà. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été le cas avec Frédéric.
Oui, toujours des surprises, et en relisant tous vos livres pour cette rencontre, il y a une sorte d'autre personnage en fait qui apparaît beaucoup, qui est de plus en plus présent dans votre travail. C'est toutes ces scènes abstraites, organiques, qu'on retrouve dans la botanique aussi, dans Lupus, qu'on retrouve aussi dans vos derniers livres. Il vient d'où ce plaisir de faire ces mises en scène avec la prise de drogue aussi qu'on retrouve dans Lupus.
Et il n'est pas exclu que tout ça ait un rapport avec la consommation de drogue. Hein, mais... culture squat. Non, mais je ne sais pas. Chaque fois qu'on... J'ai l'impression que ça commence à brûler quand je m'approche de toutes ces choses. On me force à m'en approcher, vous voyez, parce qu'on me pose des questions, puis on me force à y réfléchir, puis j'ai l'impression que ça commence à me brûler les mains, puis j'ai pas envie d'y aller. Alors, je sais pas trop, mais je pense que moi j'ai grandi en tant que lecteur, j'ai grandi comme monomaniaque de Tintin, moi, jusqu'à l'âge de, je sais pas, 14 ans, un truc comme ça. En fait, je lisais à peu près que ça. J'avais les autres classiques franco-belges, mais ça m'excitait moins. J'ai eu une brève période de Benoît Bricefer quand j'étais très enfant. Mais en fait, j'étais vraiment un fou de Tintin, moi. Je les connaissais tous par cœur, encore aujourd'hui d'ailleurs, et je continue à trouver ça absolument inépuisable. Et voilà. Et il y a tout d'un coup des rencontres à l'adolescence qui m'ont sorti de ça. Je me rappelle qu'on m'a offert Brouillard sur le pont de Tolbiac. De Tardy, un jour, voilà, j'ai réalisé que tout d'un coup j'ai découvert ce que c'était qu'un anarchiste, que Paris c'était sombre et sale, et que c'était pas comme dans Tintin. Enfin, il va pas à Paris beaucoup, mais. Et puis le grand choc, en fait, une espèce de deuxième, c'est comme un deuxième papa, c'est presque, c'est la découverte de Moebius. C'est la découverte du Moebius psychédélique, pour être très précis. Celui du garage hermétique et du bandard fou et tout ça, probablement vers 14-15 ans. Alors je pense que ça, c'était une espèce d'énorme bouée de sauvetage comme ça, qui du coup a pris énormément d'importance. Puis je sais pas, j'ai toujours eu ce goût, moi, même le rock psychédélique m'a toujours attiré. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est une espèce de prédisposition d'esprit, ou il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec une fuite dans le dessin. C'est-à-dire que je pense que le fait de me plonger dans des histoires et de dessiner, je pense que ça crée une espèce de transe qui n'est donc pas du tout forcément liée à la drogue, hein, en l'occurrence, qui est vraiment la transe de l'enfant, en fait, qui est la transe de l'enfant qui se met à quatre pattes pour dessiner sur le plancher du salon, quoi, puis qui disparaît pendant une demi-heure dans une espèce de monde parallèle comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fois une transe et puis c'est aussi un sentiment de toute puissance. C'est pour ça que j'ai un appétit pour la science-fiction aussi, parce que c'est des univers où on peut absolument tout contrôler, tout créer à partir de rien. Alors, je me plais à fantasmer qu'il y a des portes dans mon cerveau que j'ai pas encore ouvertes, et puis qu'à force de transe et de recherche de choses, je vais faire surgir des espèces d'accidents comme ça qui viennent du très fond de mon inconscient, quoi. Donc c'est des dessins qui ouvrent, ou j'espère, peut-être que pas, j'en sais rien, mais qui ouvrent des portes. Je pense que c'est ça. C'est un mélange de toutes ces choses-là. Mais moi, c'est le plaisir qui gouverne ce que je fais. Moi, j'ai de la peine à faire les choses dans la douleur. Donc c'est des dessins, quand je dois les élaborer, dans lesquels je plonge totalement et qui me procurent un très intense plaisir. Des fois, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça.
Merci à vous trois.
Merci.